Monsieur Gerald Weston. Le jour du Seigneur, jour de nuées et de brouillard, avec retour du soleil à la fin. Bonjour à vous tous, où que vous soyez. Nous célébrons aujourd'hui une journée magnifique, et nous allons vous décrire sous peu ce qu'elle représente. Monsieur Desimond mentionnait tantôt à quel point l'œuvre progresse, et cela sur bien des fronts. C'est vraiment remarquable. Et vous savez, en cela, nous ne faisons que poursuivre ce que M. Armstrong a fait et ce que Dr. Meredith a fait avant moi, à savoir de prêcher l'Évangile au monde, de délivrer le message d'avertissement d'Ézéchiel et de nourrir le troupeau de Dieu. C'est ce que nous avons l'intention de faire. Et il est important pour nous de nous acquitter de cette mission, car c'est là une responsabilité que Dieu nous donne, comme il est dit au verset 11 et 12 de Proverbes chapitre 24, ainsi qu'au verset 10, qui nous exhorte de ne pas nous laisser abattre au jour de l'adversité. Il nous faut donc garder cela à l'esprit et prier Dieu de nous aider à trouver des moyens de le faire, bien que nous sachions qu'en fin de compte ce sera Jésus-Christ et Dieu le Père qui travailleront à travers nous pour que le travail soit accompli. Vous le savez, Hollywood adore concevoir des films à grand succès du type catastrophe. On va payer beaucoup d'argent pour les voir. Du moins, c'est ce que certains font. Combien y a-t-il eu de films qui ont impliqué des volcans, des tremblements de terre, des astéroïdes, des tsunamis, ainsi que des tornades? Et puis, il y a eu des films sur la guerre nucléaire et ses conséquences. Pour ceux d'entre vous qui sont assez vieux, ils se souviendront de ces films à grand succès, décrivant des catastrophes maritimes du genre Titanic, The Perfect Storm, en pleine tempête. Sans oublier The Poseidon Adventure, l'aventure du Poséidon. Je crois que c'est celui à propos du Titanic qui fut le dernier des trois à être apparu à l'écran. Et pourtant, n'est-ce pas déjà de l'histoire ancienne pour la plupart de nos jeunes? Oh, et puis, nous avons toutes ces autres choses. En fait, nous avons même des parodies de films à catastrophe. Ainsi, je me souviens d'une conversation que j'ai eue un soir, alors que nous vivions en Angleterre, il n'y a pas si longtemps. M. Jamie Meekin, qui vivait avec nous à l'époque, nous parlait du pire film à catastrophe qu'il ait jamais vu. C'était Sharkmageddon. Et il a découvert plus tard qu'il y avait en fait toute une série de films d'horreur sur les requins, comme Sharknado, où les requins sont extraits de l'océan et projetés dans les airs pour finalement s'écraser contre des pare-brises de Boeing 747. C'est fou, mais... nous devons aimer ces choses puisque nous payons pour les voir. Hélas, le jour approche où pratiquement toutes ces catastrophes, à l'exception des films sur les requins, vont se produire. Non pas dans des films, mais dans la vie réelle. Pas dans des endroits isolés, mais partout dans le monde. Et elles se produiront dans un laps de temps relativement court, en un petit nombre d'années. Cette fête des trompettes que nous célébrons aujourd'hui illustre cette époque. Elle évoque beaucoup de choses. Et comporte différents niveaux de signification. Ceux d'entre nous qui sont membres de la famille de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, nous nous réjouissons en ce jour. Oui, nous nous réjouissons en pensant à ce qui va se passer lorsque la septième trompette retentira, quand Christ reviendra, et que nous serons alors ressuscités ou changés en un instant, en un clin d'œil. Nous nous réjouissons de cela parce que pouvoir être né dans la famille même de Dieu, n'est-ce pas la meilleure chose que nous puissions espérer ou imaginer? Y a-t-il une pensée plus merveilleuse que celle-là? Pensez-y. Le fait de ne plus jamais connaître ni douleur ni maladie, de ne plus avoir à craindre de mourir, ni même de succomber à la fatigue. Ce sont là des choses que nous attendons avec impatience. Par ailleurs, nous nous réjouissons à l'idée que Christ va alors imposer sa justice à un monde impénitent. Combien de fois lorsque nous regardons les nouvelles à la télévision et que nous voyons se produire des choses terribles, ne souhaitons-nous pas que ces individus soient arrêtés ou que ces nations voyous soient remises à leur place et cessent de faire régner la terreur autour d'elles et ailleurs dans le monde? Eh bien, Dieu va mettre un terme à ces exactions. Il va faire régner la justice. Il nous montrera comment traiter les méchants, ceux qui ont semé la discorde dans ce monde, ceux qui ont semé la division, Le Christ va s'occuper d'eux et corriger tout cela. Mais le jour des trompettes verra aussi se manifester des spectacles terrifiants. Ce sera une époque de guerre, de sombres nuages et d'obscurité. C'est pourquoi le titre de ce sermon est « Le jour du Seigneur, jour de nuée et de brouillard, avec retour du soleil à la fin ». Il se caractérise effectivement par tout cela. Notez Amos, chapitre 5. Nous commencerons par là, ce qui nous donnera en quelque sorte un bref aperçu de ce qu'est ce jour. Voyons ce que dit le verset 18. Amos 5, verset 18. « Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Aucun d'entre nous ne désire vraiment tout ce qui va se passer durant le jour du Seigneur. Certes, nous attendons avec impatience le moment de notre résurrection, à la fin de l'âge, lorsque la septième trompette retentira. Oui, bien sûr. Mais nous ne sommes pas du tout impatients de voir se manifester les six premières trompettes. D'ailleurs, il en est de même de la septième trompette, laquelle amènera ces sept derniers fléaux qui seront déversés sur cette terre. Nous n'attendons pas nécessairement avec impatience toutes les choses terribles qui vont alors se produire. En effet, cela pourra affecter nos parents, nos amis, des gens que nous aurons connus et qui passeront alors par des moments terribles, en particulier les sept derniers fléaux. Il n'empêche que nous attendons tout de même avec impatience le moment où nous serons ressuscités. À nouveau, Amos 5, verset 18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Ainsi, vous fuirez un désastre pour vous réfugier dans les bras d'un autre. Vous serez comme un homme qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, et que mord un serpent. En ce temps-là, on aura beau courir, on ne pourra se réfugier nulle part pour échapper au châtiment, car Dieu va s'occuper de l'humanité de telle sorte qu'on ne pourra échapper au désastre qui est annoncé. » Voyez-le au verset 20, Amos 5, verset 20. « Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbre et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? » Voilà ce qui caractérise cette fête des trompettes. C'est ce dont nous devons nous pénétrer, nous qui sommes assemblés ici en ce jour. Nous devons comprendre ce qui attend ce monde. Et vous savez, nous devons aussi nous efforcer de changer nous-mêmes, de nous humilier devant notre Créateur, de croître spirituellement, de changer, tout en implorant son aide pour y parvenir, afin que nous n'ayons pas à souffrir toutes ces choses que le reste du monde va devoir souffrir à ce moment-là. Au cours de ce sermon, nous allons nous pencher sur cette époque connue sous le nom de « Jour du Seigneur », car la fête des trompettes concerne le jour du Seigneur. Nous allons donc examiner le jour du Seigneur et répondre à six questions fondamentales à propos de ce jour. Première question. Qu'est-ce que le jour du Seigneur dont il est question dans les Écritures? Je vais commencer par le livre de l'Apocalypse. Il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui parlent du jour du Seigneur. Mais nous allons débuter ici, dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Sachez que nous ne ferons qu'un survol rapide des premiers chapitres de ce livre de la Bible. Commençons donc avec Apocalypse chapitre 1, verset 1. Il y est dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est le révélateur de ces choses que Dieu le Père lui a données pour qu'il montre à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a alors envoyé son ange pour en informer son serviteur Jean. Jean devait attester la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il avait vu. Immédiatement après cette introduction, nous voyons alors Jean qui commence à transmettre le message aux sept églises, c'est-à-dire aux serviteurs de Dieu. Parce que, lorsque nous comparons Apocalypse chapitre 1, verset 1, avec Apocalypse 22, versets 6 et 16, nous constatons que les serviteurs de Dieu et les églises auxquelles les trois premiers chapitres du livre font référence sont des termes synonymes. Ainsi, Jean adresse immédiatement un message aux sept églises d'Asie. Le verset 10 présente ensuite le thème de tout le livre de l'Apocalypse. Il dit, Apocalypse 1, verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Il est donc ici question du jour du Seigneur, et le monde voudrait nous faire croire que le jour du Seigneur, c'est dimanche. Or, cela n'a absolument rien à voir avec dimanche. Non, le jour du Seigneur qui apparaît ici signifie simplement que Christ a le contrôle de ce jour. Ce même terme est d'ailleurs utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament, mais il n'a aucune relation avec le jour que nous appelons dimanche. De fait, si vous considérez Marc chapitre 2 verset 28, Matthieu chapitre 12 verset 8 et Luc chapitre 6 verset 5, vous verrez que ces trois versets affirment que Jésus est, au contraire, le Seigneur du sabbat. Il n'est donc pas le Seigneur du dimanche, le premier jour de la semaine. La Bible ne mentionne nulle part que Jésus est le Seigneur du dimanche. Le jour du Seigneur ne peut donc en aucune façon être associé à dimanche. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 10, Jean mentionne qu'il fut saisi par l'Esprit et transporté au jour du Seigneur. Et c'est donc de cela dont il est question dans ce livre. Immédiatement après, nous voyons que son message est adressé aux sept églises d'Apocalypse chapitre 2 et 3, ce qui définit qui sont les serviteurs de Dieu à travers le temps. Apocalypse chapitre 4 nous parle ensuite de Dieu sur son trône, tandis qu'Apocalypse chapitre 5 présente Jésus-Christ comme le révélateur. Ainsi, on nous révèle d'abord qui sont les serviteurs de Dieu, puis d'où vient le message qui leur est adressé, à savoir de Dieu le Père. Et enfin, nous avons Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui est le révélateur du message. Après cela, au chapitre 6, on nous parle de toutes les choses qui vont se produire jusqu'au jour du Seigneur. Ainsi, nous avons les quatre cavaliers, nous avons la persécution des serviteurs de Dieu, les signes célestes. Et ensuite, au verset 16, il est dit, Apocalypse 6, verset 16, « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » La colère de l'agneau, c'est-à-dire la colère de Christ. Les gens diront, « Je croyais que Jésus ne parle que d'amour. » Eh bien oui, il parle d'amour, mais parfois, l'amour implique une fessée, et c'est là ce que le monde va recevoir. Verset 17, « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Puis, dans l'Apocalypse, chapitre 7, nous lisons qu'avant de déverser sa colère, il va protéger ses 144 000 et la grande multitude innombrable. Il y a toutes sortes de spéculations à propos de ces 144 000, mais nous savons que la multitude innombrable sera, elle, passée par la grande tribulation. Peut-être que les 144 000 le seront aussi, qui sait. Je ne vais pas me lancer dans des spéculations à ce sujet, car il y a tant de choses que nous ne savons pas. Sachez cependant que ces choses sont régulièrement discutées lors des réunions que nous tenons dans le cadre du Conseil des Anciens. Le problème, c'est que presque tous les scénarios auxquels on aboutit font appel à des hypothèses, et si celles-ci s'avèrent inexactes, que ce soit au début, à mi-chemin ou près de la fin, nous nous orienterons immanquablement dans une mauvaise direction. Dieu nous le révélera bien en temps et en lieu. D'ici là, évitons de causer des divisions à ce sujet. Je sais que nous pourrions avoir des gens qui voudraient créer leur propre église sur la question des 144 000 ou à propos de la grande multitude innombrable, parce qu'il y a toutes sortes de spéculations à ce sujet. Mais est-ce là ce que Dieu veut que nous fassions, ou veut-il que nous soyons patients jusqu'à ce que le moment vienne où il nous le révélera? Ensuite, dans Apocalypse chapitre 8, il est question de ces sept trompettes, de ces sept anges qui reçoivent sept trompettes, et de cette période de silence d'environ une demi-heure. À ce propos, je voudrais rappeler que, l'an dernier, dans son sermon de la fête des trompettes, M. Wallace Smith avait mentionné un passage très intéressant à propos d'un silence d'une demi-heure. Il y était question d'une sorte de temple dans le ciel et de prières qui sont offertes, ainsi que d'une période d'environ une demi-heure pendant laquelle on offre de l'encens, ce qui, selon certains, serait un indice qu'il s'agirait peut-être là du même événement que celui mentionné dans Apocalypse chapitre 8. Quand nous arrivons au verset 7 d'Apocalypse chapitre 8, on mentionne sept trompettes qui vont sonner, mais il est ici question de la colère de l'agneau, lorsque la grande colère de Dieu va être manifestée, mais cela n'a rien à voir avec la grande tribulation qui correspond à la colère de Satan envers l'humanité, tandis que le jour du Seigneur est l'époque de la colère de l'agneau. Oui, c'est la colère du Christ envers les êtres humains rebelles et impénitents qui persistent dans leur refus de comprendre le message de Dieu. Malgré toutes les choses qui se produiront pendant la période de 2 ans et demi de la grande tribulation, lorsque la colère de Satan se déchaînera contre l'humanité, et malgré toutes les choses qui l'auront précédé, nous arrivons enfin au moment où Jésus-Christ interviendra lui-même pour traiter l'humanité d'une manière qui attirera enfin son attention. Ainsi, qu'est-ce que le jour du Seigneur? Eh bien, c'est le jour où se manifestera la colère de Dieu, la colère de l'agneau, comme nous le lisons dans Apocalypse 6, verset 17. Tout le reste du livre de l'Apocalypse traite donc du jour du Seigneur. Nous avons donc ces 6 premiers chapitres qui conduisent au jour du Seigneur. Puis, les événements s'enchaînent. Oh, il y aura bien quelques chapitres annexes qui ajouteront quelques informations. Mais nous aurons surtout les 7 trompettes, la 7e étant constituée des 7 derniers fléaux. Donc, le thème principal du livre, tel que mentionné dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, c'est le jour du Seigneur. Voilà notre première question élucidée. Question numéro 2. Quelle est la durée du jour du Seigneur? Eh bien, je pense que nous l'avons déjà un peu indiqué précédemment, mais prouvons-le. Ne prenons pas cela pour acquis. Certains diront que c'est une période d'un an. Eh bien, prouvons-le d'une manière ou d'une autre. La Bible parle de ce principe selon lequel un jour peut représenter un an, prophétiquement parlant, et inversement. Nous voyons cela notamment dans Nombre chapitre 14 au verset 34. Les éclaireurs avaient espionné le pays pendant 40 jours. Puis ils étaient revenus avec un rapport négatif, et ils s'étaient rebellés contre Dieu, refusant de monter pour faire ce qu'on leur avait dit de faire là-bas. Nombre 14, verset 34 dit « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. »
Notez que celui qui est devenu Jésus-Christ était celui qui s'occupait d'eux, comme il est dit clairement dans 1 Corinthiens 10, verset 4, et même dans les 3 versets précédents.
Ainsi, il leur dit que, comme ils avaient espionné le pays pendant 40 jours et rejeté Dieu, de même, ils allaient devoir porter la peine de leur iniquité pendant 40 ans. On voit donc s'appliquer ici ce principe de un an pour un jour. Ce même principe apparaît dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6, où Ézéchiel se fait dire, Ézéchiel 4, verset 6, « Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » À nouveau, ce principe de un jour pour une année. Évidemment, cela ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça. Par exemple, nous avons les 7 jours de la création, en fait de la recréation. Ici, les 6 premiers d'entre eux sont représentatifs d'une période de 6000 ans réservée à l'homme. Nous voyons donc que, dans certains cas, pour Dieu, un jour peut représenter quelque chose de plus qu'une simple période de 24 heures. Dans d'autres cas, non. Ainsi, Jésus était dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits, c'est-à-dire exactement pendant une période de 72 heures. Parfois, le message est de nature prophétique. Alors, comment savoir? Parlant des 7 trompettes, est-ce que tout cela va se passer en un jour, ou sera-ce en un an, voire même en 100 ans ou 1000 ans? Comment pouvons-nous le savoir? Eh bien, allons à Ésaïe chapitre 34. Il y est question du jour du Seigneur, car le verset 2 dit que la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Nous reviendrons à ce verset plus tard, mais pour l'instant, concentrons-nous sur le verset 8. Ésaïe 34, verset 8. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Notez que l'on y associe le jour de la vengeance du Seigneur à l'année de sa rétribution. Remarquez aussi Ésaïe chapitre 61, où apparaît ce principe de un jour pour un an. Au verset 1, on lit Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Notez à nouveau ce principe de un jour pour une année. D'ailleurs, lorsque nous considérons le tableau d'ensemble, n'est-il pas logique de parler ici d'une période d'un an, de la colère de Dieu sur l'humanité rebelle, impénitente, et qui refuse obstinément d'accepter Dieu comme Créateur? À nouveau, le jour du Seigneur représente la colère de Christ envers l'humanité, et sa durée est de un an. Question numéro 3. Sur qui sa colère va-t-elle tomber? Là encore, il me semble que je l'ai déjà dit, mais voyons-le tel qu'énoncé dans Amos, chapitre 3, au verset 9 et 10. Amos, chapitre 3, verset 9. « Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. » Verset 10. « Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leurs palais les produits de la violence et de la rapine. Donc, il y a des gens qui ne savent vraiment pas comment faire le bien. » Intéressant. J'ai reçu un e-mail hier qui m'informe qu'il y a un nouveau film sur Netflix. On y parle des réseaux sociaux. Je vous encourage à relire l'article que j'avais écrit sur le sujet, à moins que vous ne préfériez réécouter l'émission télévisée que j'ai faite sur le même thème. Pour ce qui est de l'article, il se trouve dans notre revue Le Monde de Demain, de mai-juin 2018, et son titre est « Dompter le monstre des réseaux sociaux ». Il est disponible sur notre site web. À l'époque, je n'avais pas encore tout à fait compris ce que nous apprenons maintenant sur Internet. Vous savez, ils sont au courant de tout à votre sujet. Par exemple, si vous allez sur YouTube ou sur n'importe quel autre des réseaux sociaux, vous êtes pris en charge par ce qu'on appelle une intelligence artificielle, et cela couvre beaucoup de choses. Mais comprenez bien qu'ils savent tout sur vous. Ainsi, lorsque, sur YouTube, vous faites défiler vers le bas toutes les options qu'on vous offre, et que vous vous arrêtez juste une seconde ou deux sur un élément particulier qui est montré là, même si vous ne faites que ralentir votre défilement, cela est noté et introduit dans des ordinateurs pourvus de divers algorithmes qui noteront ce que vous aimez, ce qui vous intéresse. Que vont-ils faire ensuite? Eh bien, tout d'abord, ils tâcheront de vous garder connecté aussi longtemps que possible, ce qui leur permettra de faire de la publicité pour divers produits. Ils veulent donc vous garder, mais ils veulent aussi savoir ce qui vous intéresse. Donc, chacun d'entre nous sera un individu dont les données personnelles seront stockées quelque part. J'ai vu une émission, il n'y a pas longtemps, où il était question de ce type qui avait pu se faire donner une longue liste de 31 000 informations sur sa personne, et cela grâce à la loi sur l'information. Il avait alors noté que, lorsqu'il avait commandé à Alexa, un robot qui répondait à ses ordres vocaux à la maison, des ordres du genre « Alexa, éteins la lumière », cela avait été enregistré. Chaque fois qu'il quittait la maison, ou y revenait, c'était aussi enregistré, et cela parce que tout est connecté à Internet. Si vous avez un téléphone intelligent, un smartphone, on vous écoute tout le temps. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à parler d'un achat éventuel de tapis, voilà que tout à coup, votre navigateur Internet se met à vous donner des informations à propos de fournisseurs de tapis. Lorsque vous allez sur Internet, ils savent ce qui vous intéresse. Alors, s'ils savent que vous rejetez le concept de changement climatique, ils vous fourniront de plus en plus d'informations à ce sujet. Si vous êtes contre le port d'un masque, ils vous serviront des arguments qui vont vous encourager dans ce sens. Ils feront la même chose si vous êtes pour le port du masque. Ce faisant, ils vous maintiendront sur vos positions. Pire, ils vont même amplifier ce que vous êtes déjà. Ainsi, lorsque vous cliquez sur un élément qui cherche à promouvoir le concept que la Terre est plate, ils se feront un plaisir de vous envoyer d'autres éléments d'information sur le sujet. Cela renforcera alors votre conviction que la Terre est plate. C'est insidieux. Tout cela est du diable. Et nous devons comprendre que cela polarise les gens, cela divise les gens. Ce à quoi je veux en venir, c'est qu'il n'y a qu'une vérité objective. Mais dans notre monde, Vous aurez des personnes qui croient que ceci est la vérité, et d'autres là-bas qui croient que cela est la vérité. Chacun se bâtira alors sa propre version de la vérité. Ce ne sera peut-être pas vrai du tout, mais dans leur esprit, c'est vrai. De même, dans notre esprit, certaines choses vont être considérées vraies parce qu'on nous aura convaincus qu'elles le sont. Non qu'on veuille nous transformer en une bande de zombies abrutis, mais parce qu'on cherchera à nous vendre quelque chose, et l'effet final sera que nous serons tombés dans leur piège. Vous avez entendu parler de ces gens qui ont quitté la Silicon Valley et qui tirent maintenant la sonnette d'alarme. Et je ne parle pas ici seulement de ceux que j'ai mentionnés dans mon émission télévisée ou dans mon article, mais aussi d'autres personnes. Ils ne permettent plus à présent que leurs enfants aillent à l'école avec des ordinateurs et des appareils similaires, car ils savent à quel point cela peut être dangereux et comment cela peut devenir incontrôlable. Quand nous jetons notre regard sur le monde, nous pouvons à juste titre nous demander comment le monde peut-il être aussi stupide? Sont-ils donc tous devenus une bande d'idiots abrutis? Comment se fait-il qu'ils se laissent berner ainsi au point de croire toutes ces choses? Le fait est qu'ils n'entendent qu'un seul côté des choses, et on leur rabâche cela sans relâche. Cela explique pourquoi, au retour de Christ, les gens se montreront si rebelles et si opposés à Christ. Et vous pouvez comprendre comment tout cela va finir par se retourner contre le peuple de Dieu. Satan va retourner tout cela contre nous. Oh, bien sûr, il hait l'humanité tout entière et veut la perdre, mais il va un jour se retourner particulièrement contre nous, l'Église. Tournons-nous maintenant vers le livre prophétique de Joël. Joël, chapitre 3, verset 9. « Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. » Verset 10. « De vos hoyaux forgez des épées. » C'est précisément l'inverse de ce que nous lisons dans Michée et Isaïe. Ici, il est question de transformer des instruments agricoles en instruments de guerre. À nouveau, de vos hoyaux forgés des épées, et de vos serpes des lances, que le faible dise, « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous, là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Puis ça parle de venir se battre contre Dieu à son retour. Que les nations se réveillent, et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Et vous pourrez lire le reste de ce passage qui annonce ce qui arrivera dans les temps à venir. C'est dans cette vallée du jugement que se rassembleront les nations, et Dieu va alors s'occuper de toute l'humanité, un peu ici, un peu là, puis partout en même temps. On en parle aussi dans Zacharie chapitre 14, où on mentionne quand cela se produira, comment ils seront vaincus, et comment les survivants reviendront chez eux en disant « Vous avez intérêt à ne pas offenser ce roi, car c'est vraiment à Dieu que vous aurez affaire. » Et puis, on leur ordonnera de monter à Jérusalem chaque année pour y célébrer la fête des tabernacles. Finalement, à la fin du verset 16 et jusqu'au verset 19 de Zacharie 14, on lit comment l'Éternel bénira son peuple et lui fera justice de ses persécuteurs. Jérémie chapitre 25 reprend le même thème. Voyons-le à partir du verset 15. Jérémie 25, verset 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Il semble que Jérémie ait fait tout cela, dans une certaine mesure. Il devait aller vers toutes ces nations, soit personnellement, soit en envoyant quelqu'un d'autre pour le faire. Mais il y a dualité dans ce passage de l'Écriture, et nous le voyons ici prendre cette coupe, et il dit, verset 16, « Ils boiront, et ils chancelleront, et seront comme fous, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. » Puis il est question de toutes ces nations vers lesquelles Dieu l'envoyait. Verset 18. à Jérusalem et aux villes de Juda, verset 19, à Pharaon, roi d'Égypte, verset 20, à toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Utz et à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron et à ce qui reste d'Asdod, verset 21, à Édom, à Moab et aux enfants d'Ammon, verset 22, à tous les rois de Tyr et à tous les rois de Sidon, verset 23, à Dédan, à Théma, à Buz, verset 24, à tous les rois d'Arabie, verset 25, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam et à tous les rois de Médie, verset 26, à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Donc, ce que nous voyons ici, c'est en quelque sorte un avant-goût de ce qui va se passer dans le futur, lorsque toutes les nations de la terre vont devoir boire de cette coupe, comme il est dit au verset 17, ce qui les fera tituber et entrer dans une véritable guerre. Poursuivons au verset 27. Tu leur diras, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous, et vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. » Ce sera donc une époque de guerre totale, menée au son du chauffard et de la trompette. Et on leur commande ici de boire jusqu'à s'enivrer, jusqu'à vomir, et ne plus être capable de se relever. Verset 28. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, « Ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. » Ainsi, les pays qui n'ont pas vraiment cela à l'esprit vont devoir boire, parce que Dieu va traiter avec eux de telle manière qu'il va vaincre leur armée. Cela va donc se produire. Verset 29. « Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, Jérusalem et aussi Israël en général, je commence à faire du mal. Et vous, vous resteriez impunis? Il n'y a pas de nation juste sur la face de la terre. Certaines des nations apparemment les plus pacifiques sont tellement portées vers les faux dieux. Je veux ici parler de certaines îles du Pacifique Sud, ainsi que de nations comme la Thaïlande. Vous savez, la Thaïlande n'est pas une grande puissance militaire. Mais ils sont tellement impliqués dans leur culte païen de Bouddha et d'autres déités, toutes ces idoles et ces images. Cela fait hélas partie intégrante de leur culture. À nouveau, verset 29, « Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous, vous resteriez impunis? Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. » Notez qu'à la fin du verset 30, il est bien dit à nouveau que cette calamité s'abattra sur tous les habitants de la terre. Puis au verset 31, le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici. La calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés, etc. Puis, à la fin du verset 37, il est question de la colère ardente de l'Éternel, et il en est également question à la fin du verset 38. Nous voyons donc que cela concerne aussi notre époque. Ce n'était donc pas seulement pour celle de Jérémie. En ce temps-là, l'Éternel va répandre sa colère sur toutes les nations de la terre, à cause de nos péchés et parce que nous l'avons rejeté. Durant le jour du Seigneur, Dieu manifestera sa colère. Durant cette année-là, la colère de Dieu va s'abattre sur toutes les nations. Toujours dans ce domaine, notons cet autre point dans Abdias. Une partie de la Bible que nous ne consultons que très rarement. Il y est question d'une prophétie au sujet d'Édom. Abdias est un livre qui ne contient qu'un chapitre, et nous lirons les versets 15 et 16. Abdias, verset 15. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Ainsi, bien que la prophétie s'adresse à Édom, on voit ici qu'elle concerne en fait toutes les nations. Poursuivons. Le jour de l'Éternel est proche, et il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Ici, il s'adresse spécifiquement à Édom, à cause de ses péchés. Verset 16. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Ainsi, il leur faudra boire de cette coupe de la colère de Dieu, qu'elles le veuillent ou non. Cela s'adresse donc à toutes les nations. Voyons un autre passage des Écritures sur le sujet. Il se trouve dans Ésaïe chapitre 34. Ésaïe 34, verset 1. Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle, et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Ce n'est pas un joli tableau, mais quand vous contemplez l'humanité, en fait, nous n'avons qu'à nous regarder nous-mêmes dans un miroir. Lequel d'entre nous est exempt de péché? Lequel d'entre nous n'a pas fait durant cette vie beaucoup de choses qu'il ne regrette pas? D'accord, Dieu nous a pardonnés, et Jésus nous a exonérés de nos pénalités. Nous avons été baptisés, nos péchés ont été lavés, non seulement par l'eau du baptême, mais aussi par le sang du Christ. Et il y a aussi l'eau de la parole de Dieu, qui nous met sur le droit chemin et qui nous change. Cependant, frères et sœurs, n'oublions pas que nous vivons dans un monde où nous subissons quantité de mauvaises influences, notamment celles d'Internet. Ainsi, lorsque nous nous arrêtons pour nous examiner, notre comportement reflète-t-il Jésus-Christ ou sommes-nous le reflet de ce monde? Nous laissons-nous prendre par tous ces arguments et ces raisonnements qui fusent de partout? Sommes-nous affectés par l'esprit de rébellion qui sévit dans ce monde, qui fait dire aux gens « Personne ne va me dire quoi faire ». Je m'étonne parfois de voir à quel point même nous, dans l'Église, sommes influencés par de telles attitudes. Cela dit, je sais que, moi aussi, quand je me regarde dans le miroir, j'ai aussi beaucoup de choses dont je dois me repentir. Nous avons donc tout lieu de considérer que nous ne sommes pas à la hauteur. Alors, s'il en est ainsi de ceux d'entre nous qui ont l'Esprit de Dieu, à combien plus forte raison en sera-t-il ainsi pour les gens de ce monde qui ne se soucient pas d'avoir des contraintes comme celles que nous nous imposons? Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sincèrement religieux à leur manière. Ils ne comprennent tout simplement pas. Mais ne vous avisez pas de leur enlever leur célébration de Noël, ou des Pâques, ou quelques autres fêtes auxquelles ils tiennent, car vous découvrirez que ces gens qui se montraient très gentils à votre égard ne le resteront pas toujours. J'ai dit plusieurs fois que nous vivons dans le plus beau quartier que nous n'ayons jamais eu. Nous avons beaucoup de voisins tout autour de nous qui sont très gentils et très serviables, mais nous ne devrions jamais penser que cela va rester ainsi lorsque les temps deviendront difficiles et qu'ils découvriront ce que nous croyons à propos de certaines choses. Vous savez, Christ n'a pas été dupe lorsque les gens le couvraient d'éloges. Il connaissait la nature humaine et il ne s'est pas laissé emporter par cela en s'imaginant que tout est merveilleux. Il savait ce que la nature humaine est capable de faire. Ainsi, parfois, ceux qui sont vos voisins, ceux qui sont vos amis, peuvent se retourner contre vous, et cela très rapidement. J'espère qu'ils ne le feront pas, mais vous savez, je pense que nous serions naïfs de penser que cela n'arrivera pas. Commencez à piétiner sur Noël ou sur d'autres choses auxquelles ils croient, et cela pourra très rapidement changer vos rapports avec eux. Lorsqu'ils se rendent compte que vous ne croyez pas comme eux, ils peuvent peut-être l'accepter. Ah, vous observez le sabbat? Vous pratiquez une autre sorte de religion? Tant que ça ne les touche pas de près, ils pourront peut-être l'accepter, mais ne vous avisez pas de marcher sur leur plate-bande. Voilà pourquoi la colère de Dieu va s'abattre sur ces nations, comme il est dit ici. Ainsi, le jour de l'Éternel se traduira par la colère de Christ à l'endroit de l'humanité rebelle. Cela s'étendra sur une période d'un an et affectera toutes les nations de la terre. Question numéro 4. Mais pourquoi Dieu exercera-t-il sa colère sur l'humanité? Eh bien, j'y ai déjà fait allusion précédemment, mais voyons ce que disent les Écritures quant aux raisons qui motivent cette intervention de Dieu. Voyons Ésaïe chapitre 2, une section de la Bible que nous lisons généralement à la fête des tabernacles, notamment les 9 premiers versets, alors que nous réservons généralement la fin du chapitre 2 pour la fête des trompettes. Eh bien, justement, lisons le verset 10, puisque le sermon d'aujourd'hui a pour thème le jour du Seigneur. Ésaïe 2, verset 10. Entre dans les cavernes des rochers, et cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. En tant qu'être humain, nous nous sommes élevés au-dessus de Dieu. Quand nous revenons en arrière, à l'époque d'Adam et Ève, que voyons-nous? Ils avaient rejeté Dieu en tant que leur chef, rejeté la connaissance qu'il nous révèle. Ils ont voulu décider eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ce que toute l'humanité a fait depuis. C'est le péché que nous avons tous commis en exaltant notre volonté, nos pensées au-dessus des pensées de Dieu. Cela me rappelle l'époque où j'étais entré dans l'Église. J'étais alors un adolescent. Je n'avais pas grandi dans l'Église, et mes parents n'étaient pas d'accord avec ce que celle-ci enseignait. J'avais alors un ami dans l'Église, et un jour, cet ami a exprimé l'opinion que nous ne devrions peut-être pas jouer au baseball le jour du sabbat. Ma réaction fut alors de dire « Ok, tu as probablement raison, mais mon équipe compte sur moi, et je ne veux pas la décevoir. » Alors, je crois que je vais finir la saison avec eux. C'était là exalter mes pensées au-dessus des pensées de Dieu. À partir du moment où je compris que je ne devais pas le faire, j'aurais dû changer, mais je ne l'ai pas fait à cause de ma nature humaine. Et oui, nous avons tendance à céder à la raison humaine et nous tergiversons. Plus tard, lorsque j'ai cessé de jouer au baseball le jour du sabbat, voilà que c'était la saison du football. Alors je me suis allongé sur le canapé et me suis mis à suivre le match de football à l'écran. À mes yeux, c'était conforme à l'idée que je me faisais du sabbat en tant que jour de repos. Je pensais donc que je pouvais regarder le match de football le jour du sabbat. Inutile de dire que j'avais encore beaucoup à apprendre. Je ne savais pas encore comment respecter le sabbat. Ainsi, nous avons tendance à exalter nos pensées au-dessus des pensées de Dieu, et nous le faisons tous de diverses manières. Nous pensons que nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne. Par exemple, Dieu dit de ne pas murmurer, de ne pas se plaindre. Ok, lequel d'entre nous n'est pas coupable de se plaindre ou de murmurer d'une manière ou d'une autre? Je regardais récemment un document sur la Deuxième Guerre mondiale, et on y montrait des prisonniers de guerre qui revenaient du Japon, et, comme l'a dit une personne, ce qu'ils ont tous appris là-bas, c'est de ne plus dorénavant se plaindre de quoi que ce soit. Jamais plus ils ne se plaindraient qu'on leur serve un café tiède, ou qu'un plat particulier ne respecte pas les normes gastronomiques. Nous nous plaignons si souvent pour des peccadilles, parce que nous n'avons jamais eu à endurer des traitements comme ceux qu'ils connurent en tant que prisonniers de guerre au Japon. Ils ont tous appris une leçon là-bas, une leçon que toute l'humanité va bientôt apprendre à son tour. Cela veut-il dire que tous ceux qui sont sortis de cet enfer ne se sont plus jamais plaints? Vous savez ce qu'est la nature humaine. Nous oublions. Oui, nous avons tout fait d'oublier. Cependant, tant que le souvenir de ces expériences passées demeurerait vivant dans leur esprit, ils ne se plaindraient pas au serveur ou à la serveuse, parce que quelque chose ne serait pas à leur goût, car ils penseraient alors à cette époque où ils manquaient de tout. Cela ne veut pas dire que c'est mal que de leur faire remarquer que votre steak est un peu trop cuit ou pas assez, mais cessons de grommeler et de nous plaindre comme nous le faisons si souvent et pour des peccadilles. Pensez à ces hommes qui, pour survivre, se contentaient de manger tout ce qui leur tombait sous la main, des rats, des chiens, des lézards et parfois même des serpents. C'est là ce que le monde va connaître pendant cette période de détresse, parce que maintenant, que nous l'admettions ou non, nous avons une attitude hautaine. Nous nous imaginons que nous en savons plus que Dieu, et cette personne qui vit près de chez vous, cette personne qui semble si aimable, qui sait lire et peut donc savoir quel est le jour où l'on doit offrir un culte à Dieu, va s'obstiner à observer un jour différent. Cela revient à exalter sa volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Poursuivons, verset 12. Ésaïe 2, verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Ainsi, Dieu va humilier l'humanité. Verset 17. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la terre pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or. Toutes ces choses qui sont si importantes à nos yeux aujourd'hui ne signifieront plus rien à ce moment-là. Ils jetteront toutes ces idoles qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Voilà pourquoi Dieu fera venir tout cela sur l'humanité. Nous ne nous y reporterons pas, mais notez qu'Ésaïe chapitre 13, au verset 6 à 14, parle également de ces choses. Question numéro 5. Comment pourrait-on se demander, la colère de Dieu va-t-elle se manifester? Comment va-t-elle s'abattre sur l'humanité? Eh bien, comme il est dit dans Joël chapitre 2, au verset 1 et 2, ce sera un jour de nuées et de brouillard. Sophonie, chapitre 1, verset 14, parle aussi de cela. Sophonie 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Verset 15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Verset 17. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Voilà donc ce que Dieu va faire venir sur l'humanité. Il y aura des ténèbres, de l'obscurité et toutes sortes d'autres choses. Voyons aussi Ésaïe chapitre 24, versets 1 et 6. Un passage qu'Ellen White cite dans son livre « The Great Controversy », « La Grande Controverse ». Je pense qu'il a été publié sous plusieurs autres noms. Dans ce livre, elle cite Ésaïe 24, versets 1 à 6, et je vous suggère de vous familiariser avec cela, parce qu'il y est question de la terre qui vacille et de ses habitants. Elle nous dit « C'est pourquoi ses habitants sont brûlés ». Plus loin, elle ajoute « Et il reste peu d'hommes ». Par contre, elle dit aussi que, pendant 1000 ans, il n'y aura personne de vivant sur la terre. Mais là, elle se trompe, car elle ne comprend pas vraiment ce qu'est le jour du Seigneur, sinon qu'il va apporter la désolation sur toute la terre. Son livre est publié par les Adventistes du septième jour. Il y a aussi une version audio gratuite disponible sur YouTube, pour ceux qui comprennent l'anglais. Vous pouvez aussi vous contenter de simplement lire Ésaïe 24, des versets 1 à 6. Mais ne vous arrêtez pas de lire avant d'être arrivé à la fin du verset 6. C'est là un autre passage qui montre comment la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Revenons au livre de l'Apocalypse. Souvenez-vous, au début de ce sermon, Je parlais de films à catastrophe, et je m'apprête maintenant à vous servir un certain nombre de courtes séquences vidéo qui, sans entrer dans la catégorie Sharkmageddon ou Sharknado, vont quand même vous donner un petit aperçu du désastre qui va prochainement affecter la Terre et ses habitants. C'est dans Apocalypse chapitre 8 que ces trompettes commencent à sonner. Voyons-le au verset 7. Apocalypse chapitre 8, verset 7. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Maintenant, on ne nous dit pas ce qui va provoquer cela. Tout ce que nous savons, c'est que cela va se produire. Mais lisons la suite au verset 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, notre émission télévisée, Les Jours Saints Bibliques, partie 3, du 27 septembre 2019 en parle. À noter que durant cette émission, nous offrons le DVD Pourquoi les jours saints sont importants, DVD qui regroupe les parties 1, 2 et 3. Nous allons à présent vous faire entendre le premier de ces trois courts extraits de cette émission télévisée. Celui-ci parle du deuxième ange qui sonne de la trompette. Séquence numéro 1. Le livre de Bill Bryson, Une brève histoire de presque tout, est un livre sur la science. Il y révèle quelques faits importants qui peuvent nous aider à comprendre la deuxième trompette. Le parc national de Yellowstone aux États-Unis est situé sur un grand dôme de lave en fusion, à une courte distance sous la croûte terrestre. On y trouve de nombreuses sources d'eau chaude, des geysers et des marmites de boue. Tous les scientifiques qui connaissent le parc savent qu'il est d'origine volcanique, mais pendant de nombreuses années, personne ne semblait savoir, ni même se soucier, de l'emplacement de la caldeira. Une caldeira est le cratère laissé par une éruption volcanique. Elle est le plus souvent associée au sommet d'une montagne volcanique en forme de cône, comme le mont Fuji au Japon. Mais dans le cas de Yellowstone, il n'y a pas de cône, et personne ne savait où se trouvait le cratère. Tout a changé lorsque Bob Christensen, du Service géologique des États-Unis, a vu une photographie du parc depuis l'espace. Il a immédiatement compris pourquoi personne ne reconnaissait la caldeira. Il s'avère que Yellowstone est un super volcan, et la totalité du parc, qui s'étend sur 65 km de long, se trouve être la caldeira. Elle est si grande que, debout sur le sol, on ne la reconnaît même pas. Ce que les scientifiques savent maintenant, c'est qu'il y a eu des explosions volcaniques dans un passé lointain, des explosions infiniment plus grandes que tout ce que nous avons connu dans l'histoire récente. La deuxième trompette du livre de l'Apocalypse décrit probablement un tel supervolcan, situé à proximité de voies de navigation très fréquentées. Notez-le à nouveau dans Apocalypse 8, versets 8 et 9. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. À titre d'information, un tiers de tous les navires passe par les couloirs de navigation très fréquentés de la mer de Chine méridionale. Et cette même région abrite certains des volcans les plus grands et les plus actifs du monde. Fin de la première séquence. L'explosion d'un tel supervolcan fera trembler la Terre. Notez cependant que la troisième trompette aura des conséquences tout aussi dramatiques. Voyons-le dans Apocalypse chapitre 8, verset 10. Apocalypse chapitre 8, verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile était Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Voilà pour la troisième trompette, et nous avons une deuxième séquence vidéo à son sujet. Séquence numéro 2. Le mot astéroïde est un mot latin qui signifie « semblable à une étoile ». Et nous faisons souvent référence aux météores qui entrent dans l'atmosphère terrestre comme étant des étoiles filantes. Ils ressemblent à des étoiles qui tombent sur la Terre. Ces dernières années, les scientifiques ont appris que de nombreux objets flottants dans l'espace traversent régulièrement l'orbite de la Terre. Certains de ces astéroïdes sont suffisamment grands pour causer des dégâts considérables au cas où ils frapperaient notre planète. Selon Bill Bryson, on pense, bien qu'il ne s'agisse là que d'une supposition basée sur l'extrapolation des taux de cratérisation observés sur la Lune, que quelques 2000 astéroïdes suffisamment grands pour mettre en péril l'existence civilisée croisent régulièrement notre orbite. Cependant, même un petit astéroïde de la taille d'une maison suffirait pour détruire une ville. Le nombre de ces petits astéroïdes qui traversent l'orbite de la Terre est presque certainement de l'ordre de centaines, de milliers, voire de millions, et il est pratiquement impossible de les suivre. Cette troisième trompette semble indiquer qu'un objet de grande taille frappera la Terre et affectera environ un tiers des réservoirs d'eau douce du monde. Cela pourrait-il se produire dans l'Himalaya, où se trouvent les sources des plus grands fleuves d'Asie? Les grands lacs des États-Unis et du Canada contiennent également des quantités massives d'eau douce. Fin de la deuxième séquence. Ces forces sont là, comme l'a souligné Bill Bryson dans son livre, mais c'est la succession chronologique des événements qui sera le facteur déterminant, car Dieu fera arriver ces choses durant une période d'un an. Cela dit, quand vous considérez cette année 2020, combien de choses ne se sont-elles pas déjà produites cette année? Pourtant, nous ne sommes pas encore rendus au jour du Seigneur, ni même à l'époque de la grande tribulation. Cependant, nous voyons désastre après désastre. Et vous savez, lorsque ces choses qui sont prophétisées commenceront à se manifester, elles vont se succéder très rapidement. Oui, et sur une période d'un an. Ainsi, quand vous pensez à 2020, nous ne sommes qu'en septembre. Et pourtant, regardez tout ce qui s'est déjà passé. Il semble que cette année a été pour certains d'entre nous une éternité. Oui, ce fut une longue année. Ça va aussi être une longue année pour les gens qui vivront ces épreuves du jour du Seigneur. Mais Dieu promet qu'il va protéger son peuple, comme il le dit dans Apocalypse chapitre 7, où il parle de cette marque qu'il placera sur la tête de ceux qu'il protégera. Cette marque qui les différenciera de ceux qui portent la marque de la bête, c'est-à-dire de Satan. Voyons à présent Apocalypse chapitre 8, versets 12 et 13, où il est question du quatrième ange qui sonne de la trompette. Apocalypse 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Nous n'avons pas besoin de connaître tous les détails concernant ces catastrophes. Lorsqu'elles se produiront, nous le saurons. Ce ne sera pas un secret. Par exemple, lorsqu'un tiers des navires sera détruit, cela ne passera pas inaperçu. Verset 13. Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Ensuite, nous lisons à propos du cinquième ange, au chapitre 9, à partir du verset 1, et à propos du sixième ange, au chapitre 9, à partir du verset 13. Venons-en maintenant à la troisième et dernière séquence vidéo qui parle de la cinquième, de la sixième et même un peu de la septième trompette. Séquence numéro 3. Les cinquième et sixième trompettes introduisent une guerre aux proportions inimaginables, impliquant des centaines de millions de personnes et tuant un tiers de l'humanité. Il était impossible à l'époque où ces textes ont été écrits de comprendre le type d'armes futuristes qui sont décrites dans le livre de l'Apocalypse. Ces prophéties décrivent une destruction si massive que toute vie pourrait être détruite. C'est ce que Jésus a prédit qu'il pourrait arriver s'il ne revenait pas à temps. Voyez ce qu'il dit dans Matthieu 24, verset 22. Matthieu 24, verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. La fête des trompettes révèle que Dieu interviendra pour arrêter cette folie. Apocalypse 11, verset 15 dit, « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. et il régnera au siècle des siècles. Fin de la séquence numéro 3. Voilà donc un bref aperçu de ce que cette journée représente. Mais nous avons une dernière question. La voici. Question numéro 6. Quel peut bien être le résultat d'une telle destruction massive et de la souffrance qui va en résulter sur les habitants de la terre? Dans Lévitique 25, versets 8 à 10, on parle du jubilé. Vous pourrez en lire davantage, mais nous nous en tiendrons à ces trois versets seulement. Lévitique 25, versets 8 à 10. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. Ce que nous avons là, c'est l'avènement d'une époque où l'homme va être délivré du fardeau qui pesait sur lui jusqu'à présent. La trompette dont il est question ici n'est pas l'une des 7 trompettes mentionnées précédemment. Non, celle-ci se fera entendre 10 jours plus tard, à l'occasion du jour des expiations. Que représente ce jour des expiations? Il représente la mise à l'écart de Satan, le diable, l'instigateur de ces passions qui agitent l'humanité, et c'est là l'événement que nous allons tous célébrer dans une dizaine de jours. Rendons-nous brièvement à Ésaïe chapitre 27, où ce prophète nous parle de cette trompette particulière. Ésaïe 27, verset 13. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Il s'agit d'un temps où ils reviendront de la captivité. Ce sera un temps de libération, non seulement de leur captivité physique, mais aussi de leur captivité du péché. Il s'agit donc bien d'une trompette différente, qui représente cet événement particulier qui aura lieu dans le futur. Tournons-nous aussi vers Ésaïe chapitre 11, au verset 11. Ésaïe 11, verset 11. Dans ce même temps, l'Éternel étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. En d'autres mots, Dieu va ramener Israël de la captivité, puis, de la terre sainte, la parole de Dieu se répandra dans le monde entier, alors que les gens se mettront à célébrer la fête des tabernacles. On voit donc qu'après toute cette destruction, après toutes ces choses qui vont arriver, il en sortira du bien. C'est un peu ce qui se passe avec un enfant rebelle. Lorsqu'il recevra une bonne fessée qui brisera son esprit de rébellion, il pourra redevenir ce petit être adorable qui fera la joie de ses parents et qui amènera une réconciliation entre parents et enfants. Notez aussi Ésaïe chapitre 4, versets 2 à 4. Ésaïe 4, versets 2 à 4. En ce temps-là, le germe de l'Éternel, une référence à Christ, aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elles, etc. D'ailleurs, ce n'est pas seulement son peuple qui sera purifié, mais, comme le montrent beaucoup d'autres passages, les peuples du monde entier le seront. Finalement, voyons encore ce dernier passage dans Ésaïe chapitre 19. Ésaïe 19, versets 23 à 25. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui troisième, unis à l'Égypte et à l'Assyrie. C'étaient là les deux principaux ennemis d'Israël. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». C'est là un terme qui était exclusivement réservé à Israël ou à Juda. « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage ». Il va donc y avoir une réconciliation de toute l'humanité, des races comme des nationalités. Il y aura alors paix sur la terre, un thème qui fera certainement l'objet d'au moins un de mes sermons durant la fête des tabernacles. Jésus-Christ sera appelé « Prince de la paix ». Voilà ce qui résultera en définitive de toutes ces calamités qui s'abattront sur les peuples. Ce jour du Seigneur, qui passait au début pour un jour de nuages et de morosité, deviendra aussi, à la fin, un jour de soleil. La fête des trompettes est à propos de sept trompettes, et nous nous réjouissons du son de la septième trompette en raison de ce qu'elle représente pour vous et pour moi. Nous frémissons en pensant à tous ces événements qui se produiront sur la terre au cours de cette période d'un an, car ce sera un jour de nuages et de ténèbres, et bien que nous nous réjouissions à l'idée de naître dans la famille de Dieu, le jour du Seigneur, comme nous en avertit Amos, n'est pas un jour que l'on désire. Cependant, même dans les moments les plus sombres de son histoire, l'humanité verra finalement apparaître de la lumière au bout du tunnel. Oui, le soleil luira après cela, et une fois que l'humanité aura reçu sa correction, un nouvel âge glorieux débutera, et nous en apprendrons davantage à propos de ce nouvel âge glorieux dans les jours à venir, pendant la fête des tabernacles.